Tout à l'heure, Emmanuel, il a abordé quelque chose en disant qu'un jour, enfin, on doit dire, on doit exprimer aux gens que, par exemple, Noël, c'est la naissance de Jésus. Et de plus en plus, on devra affirmer, on devra montrer qu'on est chrétien. Et le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine, bon, ça va changer de Roland parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut poser sur son cœur et réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Est-ce que on a abandonné nos routes? Et on va prendre dans le livre des Juges, chapitre 5, au verset 6. Alors j'ai travaillé sur cette chose et le Seigneur m'a donné justement toutes les inspirations entre guillemets spirituelles et qui sont extrêmement graves et importantes. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. C'est une période de l'histoire d'Israël qui est un temps de déclin. Le réveil spirituel était nécessaire, et je veux dire quelque part indispensable, voire urgent, vital. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Déborah fait une allusion dans son cantique, elle dit « Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi » 4 fois, elle dit « Réveille-toi ». Il y a des cycles dans l'histoire de l'humanité, et c'est pareil dans le peuple d'Israël, il y a des cycles, hauts, des cycles bas. Les problèmes d'hier sont également les problèmes d'aujourd'hui, rappelez-vous, on l'a vu. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, on l'a vu ensemble. L'Écriture ici décrit 6 points de chaos moral et spirituel que traverse le peuple de Dieu. Alors, reprenez le texte qu'on a lu. Les routes étaient abandonnées. Le premier point, c'est l'apostasie. Alors, beaucoup pensent que l'apostasie, c'est les gens du dehors qui ne croient plus en Dieu. L'apostasie, c'est au sein des églises. Les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Là, on parle de désobéissance. Ils se détournaient de l'Éternel. Ils désobéissaient. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Là, c'est la faiblesse spirituelle. Il y a la fameuse phrase, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, c'est là où à un moment dit, réveille-toi, Déborah. C'est la prise de conscience. Ils avaient choisi de nouveaux dieux, l'idolâtrie. Alors la guerre était aux portes. Et ici, on parle de guerre spirituelle. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 millions en Israël. Ils étaient dépourvus de protection. Ils n'avaient plus aucune arme spirituelle. Les routes étaient abandonnées à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. L'ennemi avait pris l'avantage. En Juges, chapitre 4, verset 1 et 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, alors qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le pays était occupé par les troupes cananéennes, et partout, l'ennemi risquait de fondre sur les chemins. Partout, il risquait de fondre sur les voyageurs. Il n'y avait plus aucune sécurité, tout simplement parce que les routes étaient abandonnées. C'est vraiment pitoyable lorsqu'on songe que c'est l'Éternel qui a fait venir ce peuple à Canaan, qu'il l'avait établi dans la terre promise, préparée par lui-même pour son peuple. Ce matin, je vous invite à réfléchir sur nos routes, sur celles que le Seigneur a tracées pour chacun d'entre nous. Ce chemin qui mène à la bénédiction, ce chemin qui mène à l'épanouissement spirituel, qui est ouverte dans un bon pays et dans une vie chrétienne. Ça pourrait être tellement simple. Ésaïe déclare, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Écoutez bien, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour nous seuls, on peut dire. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route, point de lion, nulle bête féroce, nul n'apprendra, nul ne l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. En Ésaïe chapitre 35, versets 8 et 9. Mais bien-aimés, ce matin, nous n'avons pas à ouvrir de nouvelles voies. Chercher quelque chose de nouveau. Chercher un évangile nouveau. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Les anciens chemins, ce sont ceux que le Seigneur a mis devant nous. Pourquoi en chercher de nouveaux ? En hébreu, littéralement, enfin, le texte hébreu dit littéralement, en Juges 5-6, les sentiers avaient cessé. Les sentiers avaient disparu. Il y avait eu l'abandon total des sentiers mis devant par l'Éternel. Aujourd'hui, nos églises feraient bien de redécouvrir ces sentiers, feraient bien de marcher à nouveau dans ces sentiers pour découvrir la force qu'avaient les premiers chrétiens de l'Église primitive. Et quels sont les sentiers de Dieu? J'aimerais vous parler ce matin des sentiers que Dieu avait mis. Et c'est là où, ne pensez pas que c'est quelque chose que je vous dis, mais c'est quelque chose que je me dis également. Parce que je pense que vous allez reconnaître plein de choses là-dedans. Il y a 4 sentiers. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur ces 4 sentiers. La première, c'est la prière personnelle et collective. On en a parlé avec José vendredi. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1, verset 14. Ils persévéraient dans les prières. Acte 2, verset 42. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1, verset 14. Ils persévéraient dans les prières. Acte 2, verset 42. En Europe maintenant, c'est plus une partie du monde où l'on prie. Absolument plus. C'est un temps de précipitation, un temps d'agitation, de détermination, d'effort humain, de confiance en soi. Et surtout, en une croyance en ses capacités personnelles. C'est-à-dire que Dieu n'y est même plus représenté dans ce que l'Église fait, dans ce que les Églises font. On vit dans un temps d'organisation humaine. Chaque chose doit être organisée, planifiée. Comme des machines, il faut chercher des volontaires. On s'agite, on croit même entrevoir ce que l'Éternel nous demande de faire. Mais c'est ce qui ne fait pas du tout les affaires de Dieu. Et en fin de compte, ça ne peut qu'engendrer une absence totale de réussite spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'humain. Il y a des gens qui partent devant, dans une évangélisation, sans prier. Parce qu'on va utiliser les choses du monde pour évangéliser. J'ai dit à quelqu'un une fois, mais habille-toi, prends ta Bible et pars. Comment l'Éternel a fait avec nos anciens prédicateurs, avec Papy Cradock quand il est arrivé ici sur Hasbrouck? Est-ce que Papy Cradock avait besoin d'un super rétroprojecteur? Est-ce qu'il avait besoin de pancartes? Il partait dans la ville avec son livre. Avec son livre. Mais il priait. Il passait du temps dans la prière. Il passait du temps devant l'Éternel en disant « Montre-moi le chemin. Que je sois ton outil entre tes mains. » Et en fin de compte, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'églises organisées, autant d'églises savamment orchestré, mais où Dieu n'y est même plus, où Dieu a déserté le lieu. Il a simplement fait la chose qu'on lit dans l'Apocalypse. Il a enlevé son chandelier. L'Esprit de Dieu n'est même plus au milieu de l'Église. Et souvent, on pense que les rouages sont parfaits parce qu'on est organisé. C'est merveilleux, on a réussi à faire ça, alors qu'on ne connaît absolument pas la volonté de Dieu. Parce que de la chose qu'on a fait, il ne reste que de l'humain. Quels en sont les fruits? Il n'y a aucun fruit. Parce que c'est dépourvu d'énergie motrice. Privé de la puissance spirituelle. Lorsqu'on se met à genoux, l'Éternel est avec nous. L'Éternel combattra avec nous. Il combattra pour nous. Je ne sais pas si vous avez conscience que lorsqu'on part avec son livre aujourd'hui, dans le monde, on part pour un combat. Pour un véritable combat spirituel. On a beau être organisé, on a beau être le plus bel orateur, s'il n'y a pas l'Éternel dans l'entreprise, il n'y a aucune réussite spirituelle. On l'obtient simplement. Il n'y a rien d'autre à faire que de se mettre à genoux et de prier. Les intercesseurs se font de plus en plus rares. La prière personnelle est réduite à une peau de chagrin, parce qu'on n'a plus le temps. Parce que il y a le grand Dieu télé, parce qu'il y a le grand Dieu musique, parce qu'il y a le grand Dieu sport, parce qu'il y a le grand Dieu... Il y a plein de dieux. Ils se sont créés de nouveaux dieux. C'est ce que le passage nous dit. La prière familiale est en fin de compte rangée dans les placards. Parce que c'est un objet démodé. Et j'irais même que, et là ça va beaucoup plus loin, même dans les églises, les réunions de prière sont désertées. On voit la puissance d'une église au nombre de personnes présentes à une réunion de prière.
Quelle est notre force aujourd'hui? C'est la question que je me pose et c'est la question que je vous pose. Je vous ai dit que la prédication de ce matin va nous... Comme elle m'a bouleversé, je me suis posé des questions en tant qu'ancien dans l'Église. L'évidence est devant nous. On a beau faire tous les tralala du monde. On a beau dire l'Éternel est avec nous et gloire à Dieu, il est encore avec nous. Mais qu'avons-nous fait des sentiers qu'il a mis devant nous? Et ce sentier en particulier qu'est la prière? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait de l'intimité avec notre Dieu qu'on a chanté ce matin? Il est pour moi, je suis pour lui. Mais si je ne lui parle pas, est-ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Que va-t-il arriver lorsque les plus grandes guerres spirituelles vont arriver? Lorsque le combat sera difficile? Est-ce qu'on aura cette phrase, la même qu'Ésaïe a eu? Il voit qu'il n'y a pas un homme, et quand il voit, c'est Dieu. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Est-ce qu'on se pose cette question-là aujourd'hui? La deuxième route qui est abandonnée est la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, d'après vous, puisaient leur puissance spirituelle où et dans quoi? Dans la télé? Ils n'en avaient pas. Dans les matchs de foot? Ils n'en avaient pas. Dans la musique? Ils étaient très peu éduqués là-dedans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir la parole de Dieu dans son intégralité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce qu'on lit la Bible tous les jours? Rien que de la lire. Je ne parle même pas de la méditer. Je parle simplement de la lire. Est-ce que la parole de Dieu est le pain de notre âme? Est-ce qu'on la médite avec avidité, avec soif? Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'on l'étudie avec délice? Ou est-ce qu'elle est couverte de la poussière de notre anorexie spirituelle? Ou est-ce qu'elle est abandonnée dans le grenier de notre indifférence? Est-ce qu'on est sur la bonne route ce matin? Le troisième chemin, et ça, Roland en a parlé, le troisième chemin, c'est la communion fraternelle. Est-ce que l'église de la chambre haute, tout embasée du feu de l'esprit, est présente dans notre cœur? Il persévérait dans la communion fraternelle. Acte 2, verset 42. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu cette communion fraternelle, qui vivent avec des illusions, et surtout avec une fausse spiritualité. On se retrouve autour de choses, excusez-moi pour les jeunes, mais autour de raclette, autour d'une fête de l'église, autour d'un barbecue peut-être pour certaines églises, au bowling, et on s'imagine que c'est la communion fraternelle. C'est tout, sauf la communion fraternelle. Est-ce qu'on veut contempler le panneau, le tableau de ce qu'est la communion fraternelle? Le tableau qui a été peint par l'artiste divin de l'Acte des Apôtres. Est-ce qu'on veut pousser la porte du temple pour voir ce qu'est réellement, en ce temps-là, la communion fraternelle? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Acte 2, verset 46. Les retrouver dans leur rassemblement, ils rompaient le pain dans les maisons. Acte 2, verset 46, la deuxième partie du verset. Écoutez la ferveur de leur louange, le parfum de leur adoration. Est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on perçoit le battement de leur cœur, rempli de l'amour de Dieu et de l'amour des uns pour les autres? Un amour qui est prêt à aller jusqu'au bout pour leur maître, jusqu'à être dévoré par les lions romains, jusqu'à être écartelé, jusqu'à être scié en deux, jusqu'à être brûlé, servir de torche. Est-ce qu'on est prêt à aller ensemble jusqu'à cette extrémité? Le christianisme, là, n'a pas pris une ride, c'est toujours le même. Parce que le fondement est le même, il est Jésus-Christ. Le Jésus qui était prêché en ce temps-là est le même maintenant. Pourquoi tout a changé? Parce que les routes sont abandonnées, tout simplement. Beaucoup, malheureusement, se contentent du vernis du nom de Jésus-Christ dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la profondeur de Jésus dans leur cœur. Et ça se voit, ça se sent. Est-ce qu'on a déjà rencontré quelqu'un qui a une profondeur spirituelle? Est-ce qu'on sait déjà ce que c'est avoir la profondeur spirituelle? La quatrième route, et qui n'est pas des plus, je vais dire, des moins importantes, c'est la vie de l'esprit. C'est la quatrième route. Et là, je suis désolé de vous le dire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'y marchent même plus. Et depuis très longtemps. Parce que quand je parle de la vie et de l'esprit, c'est marcher selon son esprit. On s'aperçoit même plus qu'on marche selon l'esprit du monde. Si c'était le cas, mes bien-aimés, les gens du dehors vous diraient, mais il y a quelque chose de spécial en toi. Il y a quelque chose de différent. On est noyé dans la masse. On ressemble à ces gens du dehors. Un pasteur dans une église a dit à une sœur, il l'a invité à vraiment connaître le baptême de l'esprit. À votre avis, sa réponse a été quoi? Mais vous savez, j'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai d'autres préoccupations. Voilà sa réponse. Au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Un peu plus tard, à la fin de la réunion, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, verset 31. C'était un renouveau pour eux. Ils avaient été bénis par la présence de l'Esprit dans leur vie. Ça a changé plein de choses. L'église en Samarie venait juste de naître. Vous imaginez ? Elle était toute neuve. Elle n'était pas comme la note. Elle était toute neuve. Et ils furent bénis du Saint-Esprit. Pierre et Jean, leur arrivée justement dans cette église, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En Actes 8, verset 15, Paul, Saul de Tarse, qui était chrétien depuis 60 ans, mais non, depuis 3 jours, il était aveugle. Il vit venir à lui le disciple Ananias. Lorsque ce dernier arriva dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et il l'a été. Et il l'a été en Actes chapitre 9, verset 17. Saul de Tarse, devenu Paul, arrive à Éphèse, rencontre quelques disciples, et il s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Il leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue. Acte 19, verset 6. L'Église d'aujourd'hui, pas plus que celle d'hier, ne peut absolument pas s'offrir le luxe de déserter la voie de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, dit Jésus. Et je ne vous parlais pas des dons de l'Esprit. Est-ce que nos réunions sont marquées par la présence de l'Esprit ? Est-ce qu'elles sont animées par un surnaturel divin ? Et je ne parle pas des manifestations de l'Esprit. Je ne parle absolument pas de ça. Mais simplement, la gloire de Dieu qui est présente au milieu de nous. Est-ce que, au sein de nos assemblées, on a le bénéfice d'entendre quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel, pour édifier, pour consoler, pour exhorter? Est-ce qu'on le vit encore au milieu de nos assemblées, qui montre la présence de l'Éternel? Nos cultes sont-elles irriguées par des louanges remplies du Saint-Esprit? Des louanges qui se posent sur votre cœur et qui l'apaisent. C'est ça la présence de l'Esprit dans une église. Est-ce qu'on a conscience qu'aujourd'hui la plupart de nos églises sont vides ? Est-ce qu'on a conscience que le chandelier a été enlevé dans la plupart de nos églises ? Pourquoi ? Parce que les routes ont été abandonnées. Parce qu'on s'est laissé submerger par les dieux extérieurs. Parce qu'on a voulu fonctionner selon ce que l'on croit. Et surtout, parce que je crois que le Seigneur m'a demandé de faire ça. Et on va directement dans le mur. Pendant des années, on peut faire des choses pour Dieu, mais jamais avec Dieu. La différence, elle est là. Le résultat est quoi ? Il n'y a aucun fruit. Aucun. On peut louer le Seigneur, parce que ici, dans notre assemblée, il y a encore des choses qui se passent au milieu de nous. On peut, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'on a conscience ce matin de l'état spirituel, de notre état spirituel en premier lieu, mais de l'état spirituel de l'Église ? Parce que le loup est à la porte. Et quand le loup va commencer à dévorer, il sera peut-être trop tard pour se mettre à genoux. Regardez simplement comment vit le monde aujourd'hui. Regardez les révolutions qui sont en marche parce que on veut avoir des droits, les mêmes droits que les autres. Parce que il y a de l'injustice. Mais Jésus a été le premier à souffrir de l'injustice humaine et il l'a payé cher. Il l'a payé de sa vie. Mais il l'a payé parce qu'il a voulu, pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau ce matin? Est-ce qu'on le dilapide avec les choses du monde? Ou est-ce qu'on dit non Seigneur, je veux revenir dans ton chemin. Je veux connaître ces sentiers dans ma vie. Je veux me mettre à genoux devant toi. Je veux chercher ta face tous les jours. Je veux être abreuvé, nourri de ta parole. Je veux connaître cette fraternité entre frères et sœurs qui fait que quand l'un souffre, j'accours et je prie avec elle. Est-ce que je veux être béni de l'Esprit ? À tel point que lorsque je me trouve avec les gens du monde, je dérange. Parce que c'est ce qui va arriver. Et c'est le plus grand des tests. Le jour où vous commencez à déranger dans le monde, c'est que vous ne faites plus partie de ce monde. Si on ne vous dit rien, c'est que vous faites partie de ce monde. Si on commence à vous dire... Tu commences à me gaver avec tes histoires de Jésus, c'est que vous avez cette vie et vous êtes dans le sentier qui vous mènera à cette vie éternelle. Si vous ne dérangez personne, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en dehors du sentier. Est-ce que je dérange ce matin? Ou est-ce que j'ai abandonné les sentiers? Est-ce que j'ai déserté le sentier que l'Éternel a mis devant moi? Soyons honnêtes ce matin. Posons-nous cette question. Est-ce que je suis continuellement dans la prière? Est-ce que je saute sur ma parole tous les jours pour dire oui Seigneur, aujourd'hui apprends-moi quelque chose de nouveau. Même si je suis un chrétien de 50 ans, d'expérience, je ne parle pas en âge. Seigneur, donne-moi une parole pour un frère, pour une sœur. Donne-moi simplement ton esprit. Est-ce que c'est ma prière ce matin? Donne-moi ton esprit. Si vous le faites de tout votre cœur, il va vous le donner. Et là, je peux vous dire que vous allez sentir la différence. Là, vous allez déranger. Mais une puissance dont vous ne vous imaginez même pas. Parce qu'il n'y a qu'une chose, qu'une personne qui comptera pour vous. C'est Jésus-Christ. Celui qui vit en vous. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui vit en vous ce matin ? Parce qu'à force d'abandonner nos chemins, Jésus-Christ n'y est même plus sur le chemin qu'on a devant nous. Parce que c'est certainement pas le sien. Les chemins qu'il a préparés pour chacun d'entre nous sont des chemins de grâce, de gloire. Il nous arme, il nous donne les armes de l'esprit. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 millions d'Israël. Voilà les armes de l'esprit. Eux, ils étaient complètement désarmés parce qu'ils avaient abandonné les sentiers. Ce matin, je vais vous dire une chose. Et je me dis une chose. Reviens à l'Éternel. et il te bénira. Amen. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous inonder personnellement de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur, le malin a cette faculté d'utiliser chacune des choses qui nous préoccupent aujourd'hui pour nous éloigner de toi. Parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur toi. Parce qu'on a peut-être abandonné les sentiers que tu as mis devant nous. Seigneur, ce matin, je reviens à toi. C'est ma prière, je reviens à toi, Seigneur. Seigneur, que Seigneur, cette pensée puisse se poser sur le cœur de chacun ici présent dans cette assemblée. Seigneur, que l'on puisse réinvestir les sentiers. Que l'on puisse, Seigneur, s'y promener, ne pas courir, mais s'y promener pour prendre chacune des grâces que tu as à nous donner, pour faire de nous de puissants soldats armés des armes de l'Esprit, Seigneur. Seigneur, que tu nous puisses nous remplir de ta présence pour qu'on ait cette faculté de se mettre à genoux devant toi, de te parler tous les jours, d'intercéder. Seigneur, montre-nous la voie. Amen.